Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonsoir à toutos et à toutes, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 15 avril 2019, c'est l'hebdomadaire d'info de Radio Albutiès. Comme lundi, allez, ben c'est parti. Au sommaire, on entendra au micro de Bérengère des échos du rassemblement de soutien au journal Casse-Pierre du coin, Saxifrage, devant le tribunal d'Albi. C'était le 2 avril dernier. Nous rencontrerons ensuite Gauthier Oustric, jeune passionné de patrimoine qui nous parlera de son association Dénatoise. On recevra aussi Christian Alboui qui viendra nous parler du projet Mission Réussir 2019 qui se déroule du 26 au 28 avril au domaine de la Mouline à Albi. Il sera en compagnie d'Alice Cara, conférencière professionnelle. Enfin, nous entendrons le portrait d'Occitanie de la semaine en partenariat avec l'ARA, Assemblée régionale des radios associatives. Cette semaine, c'est Radio Lacône qui nous propose de rencontrer Jean-Benoît Angély. Il sera question de pêche à la mouche et non pas de mèche à la bouche. Mais on commence tout de suite ce Comme un lundi avec les messages que vous nous avez laissés sur la boîte vocale de Radio Albutiès au 05 63 77 61 75 et sur le répondeur de l'émission Là-bas si j'y suis au 01 85 08 37 37.
Allô, c'est moi, tu n'es pas rentré.
Dans votre quotidien, tout ce qui se dit à propos des migrants. Dieu sait s'il se dit tout et surtout n'importe quoi. On fabrique même des séries où les scénaristes exploitent le sujet, je dis bien exploitent et non pas traitent, c'est bien différent. Comme ça, on divise l'opinion, c'est-à-dire la société civile, les gens, en deux. D'un côté, les bisounours, prêts à accepter tout et n'importe quoi, et de l'autre, les chacals malfaisants, passablement fascistes, racistes, xénophobes, etc., qui rejettent l'étranger. Malheureusement, la question est bien plus complexe, car dans la réalité, ce qu'on appelle manichéisme, la généralisation du tout bien, tout mal, ça n'existe pas. Derrière ce phénomène migratoire se cachent bien d'autres choses. D'abord les réseaux mafieux, qui s'engraissent sur un trafic humain. Ensuite des potentats, surtout africains, mais pas seulement, trop heureux de se débarrasser de tranches de population, surtout des hommes et jeunes, qui constituent pour eux les principales sources de revendications, de contestation de leur pouvoir despotique. Sur ces trafics se greffe le racket, aussi bien des polices locales que des militaires, une façon là aussi pour les pouvoirs locaux de laisser se payer ses propres fonctionnaires, en quelque sorte, par leurs propres moyens sur le dos des populations, et ce, en association avec les réseaux des passeurs mafieux. C'est autant d'économiser pour le tyran et sa cour, qui eux investissent en Suisse, au Luxembourg, en Malte ou au Liechtenstein. Les migrants sont essentiellement des victimes, la matière première de cette nébuleuse qui ne fait rien d'autre que de vampiriser les forces vives de ces pays. Les républiques bananières que les pays dits riches alimentent en subventions et autres prêts à fonds perdus, mais pas perdus pour les présidents à vie, les migrants qui parviennent en Europe sont les vénards, en route plus des deux tiers restent sur le terrain, soit morts, soit récupérés par l'exploitation esclavagiste. Si le cœur vous en dit, lisez plutôt ce qu'a écrit Serge Daniel du Vécu titré « Sur les routes clandestines ». Journaliste à RFI et à l'AFP, ce franco-béninois s'est glissé dans cette vague migratoire pendant 2 ans. Et ça, nos médias blancs-bleus, dont les infos sont passées à la machine à laver, ne vous en parlent jamais ou alors à la sauvette en aparté. Mais il y a pire encore. C'est par exemple les actions de ces prétendues ONG qui, elles, exploitent à leur façon et en seconde main ce malheur affreux. C'est ici qu'on trouve des gens comme George Soros, un milliardaire, qui ne prétend à rien moins qu'à resserre complètement la société civile occidentale par l'apport migratoire. Sans le moindre complexe, il a même présenté aux instances européennes un moratoire dont la lecture donne froid dans le dos et ailleurs. Et là, on entre de plein pied dans les visées de l'ultralibéralisme des multinationales de la finance, dont la théorie sociétale est simple. Mettre en place une main-d'œuvre de plus en plus bon marché, exploitable et essorable à merci, dans les pays despisant des infrastructures adéquates pour booster la production de masse et multiplier le profit autant des actionnaires que des oligarchies dans les pouvoirs publics. qui, elles, sont maintenues au service de ces mêmes multinationales. Un autre point magnifique, nos forces armées de plusieurs milliers d'hommes, qui en Afrique font bien mieux que d'être un bouclier antiterroriste, elles assurent surtout la protection des tyrans, en même temps que celle des grosses sociétés qui exploitent les matières premières au meilleur tarif, en même temps qu'au détriment des populations. N'oubliez pas que nous payons ces troupes en pognon de dingue, pour reprendre une belle formule. La mondialisation, ce n'est rien d'autre, ne vous y trompez pas, nous avons déjà un pied et demi dans ce magnifique monde, et qui croyez-vous que représente notre sympathique président et sa République en marche ? En marche arrière, bien sûr.
Martine Montreuil, eh bien moi je vais vous livrer ma crainte sur les possibles arrangements entre milieu de l'argent et pouvoir qui pourraient se faire entre Macron et le RN. Je pense que c'est pour eux actuellement le seul moyen d'échapper à quelque chose qui non seulement les dépasse, mais auquel Macron et son gouvernement, je parle de lui principalement, n'a aucun moyen de, pour l'instant, bien évidemment, de faire autre chose que de la répression policière qui atteint des sommets d'indignation en ce qui me concerne et qui fait mal au cœur, au ventre, aux tripes. Voilà, ne jamais oublier les milieux de l'argent, malheureusement, et leur pouvoir de pression. Au revoir. Alors, ma voix est un peu grave, mais je suis un peu enrouée aussi. Et puis, et bon courage et résistance, toujours résistance.
Ouais, salut Abigès. J'ai appris que le samedi 30 mars dernier, des gens, des militants, j'imagine, ont été empêchés par la police municipale de distribuer des tracts sur la place publique. Et ces tracts, ils parlaient de bombardements à Gaza, en Palestine. Et je crois qu'ils demandaient le boycott des produits israéliens. Donc c'est une action pacifiste, quoi, sans doute plus symbolique qu'autre chose. Mais pour dire leur refus de laisser le gouvernement israélien faire ce qu'il veut envers les Palestiniens. Mais enfin, faut pas être très fuite pour confondre cette action informative et pacifiste avec des actes antisémites, comme par exemple un tag qui avait été fait quelques semaines plus tôt sur une palissade sur la place du Vigan. Alors, moi je dirais, messieurs les policiers municipaux, vous croyez vraiment que des militants prendraient sur leur temps bénévole pour rédiger des tracts, les imprimer, les distribuer, aller discuter avec les albigeois pour alerter sur les méthodes colonialistes du gouvernement israélien après avoir tagué une insulte sur un mur? Sérieux? Je rappelle que l'antisionisme est une opinion politique. On a le droit de critiquer une idéologie. D'ailleurs, l'Union juive française pour la paix le fait. Tandis que l'antisémitisme, c'est un délit parce que, dans ce cas-là, on critique pas une idéologie, mais une confession et des personnes. Et je rappelle surtout que l'antisémitisme, c'est un racisme, tout aussi condamnable que les autres racismes. Et qu'à faire des amalgames, on y perd tous à liberté d'expression et en compréhension de ce qu'est le monde. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et je salue quand même les policiers municipaux d'Albi qui font sans doute un bon boulot au jour le jour, avec le peu de moyens qu'ils ont. Salut, merci Radio Albiès.
Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles, voici une nouvelle fois un mystère, ne banalisons pas la santé. J'ai écrit un texte en étant en retraite spirituelle il n'y a pas longtemps, il y avait le silence, et du coup j'ai vu des femmes qui étaient très 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 généreuses, très pleines de sollicitude. Alors le texte est « Femme, votre prodigalité viendrait-elle de vos seins ou de votre sein intérieur qui est si vaste qu'elle est l'originelle demeure ?» Femme. Est-ce naturel que cette sollicitude, ou est-ce une simple habitude qui a été contractée à cause des hommes et de leurs monstrueux projets? Femme, l'on vous vaut plus, et comme vous-même tout autrement. Et même si l'enfant est en soi un firmament de chair, soyez fière d'heureusement et de librement vivre dans l'amour pour les hommes, c'est salutaire. Voilà, voilà, bon, une petite salve. Petite lave qui a coulé de ma bouche, de l'amour qui est en moi, qui va vers vous, en un délicieux patois. Belle journée à vous, j'espère la semaine prochaine, au revoir.
Allô, 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 allô.
Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour ces messages laissés sur la boîte vocale de Radio Albitzès et sur le répondeur de l'émission Là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet. Puisqu'on le rappelle, c'est à Daniel Mermet qu'on a piqué l'idée de vous faire réagir sur notre répondeur. Et nous mêlons parfois certaines de ces messages des AMG, auditeurs modestes et géniaux de Là-bas, si j'y suis, à notre boîte locale à nous, Radio Albitzès. Vous pouvez réagir à ces messages ou à l'actualité ou encore à nos émissions toute la semaine sur la boîte vocale locale de Radio Albitzès, 05 63 77 61 75, 05 63 77 61 75, messages qui seront diffusés lundi prochain dans Common Lundi. Et si vous voulez faire un petit coucou à Daniel Mermet et son équipe, c'est au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, répondeur à retrouver sur la-ba.org. Allez, on enchaîne avec le premier sujet de ce Common Lundi. On revient avec Bérengère autour du journal Saxifrage et de sa convocation au tribunal d'Albi. Oh, pop, pop, ben ça c'est pas sûr du tout. Hein. En tout cas, c'est toujours l'émission Common Lundi sur Radio Albitzès, l'hebdo avec tout ce qu'il faut. Quel pessimiste ce Clo-Clo, je te jure.
Le 2 avril 2019, Saxifrage, le journal Caspierre du coin libre et indépendant, comparaissait devant le tribunal correctionnel d'Albi. Le petit journal tarné est en effet accusé de diffamation par Didier Sirgue, deuxième fortune du Tarn. Il faut dire que Saxifrage cherche les ennuis. Dans son numéro 13, un dossier critique et argumenté était consacré au circuit d'Albi, géré par DS Events, société que dirige Didier Sirgue. On comprend que ça ne lui ait pas plu. Aux côtés du prévenu Saxifrage, sur le banc des accusés, Pascal Pranière, qui serait complice du journal pour l'entretien qu'il leur a accordé. Pour ceux qui l'ignoreraient et celles qui l'ignoreraient, Pascal Pranière est élu de l'opposition à la mairie d'Albi, dont la majorité est complice de Didier Sirgue. Le 2 avril 2019, une trentaine de lecteurs-lectrices du journal ont répondu à son appel et à celui de Pascal Pranière pour venir les soutenir. L'audience n'a guère duré, juste le temps pour Pascal Pranière et Jean-Pierre Cuc, directeur de publication de Saxifrage, de décliner leur identité et ce fut fini. Didier Sirgue ne s'est pas présenté, l'affaire est renvoyée au 21 mai 2019 à 14h. Ce fut néanmoins l'occasion de rencontrer des lecteurs et des lectrices de Saxifrage. Antonia et Jean-François font partie de cela et de celle-là. Ils nous brossent un portrait de ce journal local et irrégulier qui a leur faveur, qu'ils et elles lisent et dans lequel ils, elles, peuvent écrire.
Alors vous me racontez un peu peut-être comment vous l'avez découvert, ce journal Saxifrage, si vous vous en rappelez un peu.
Je ne me rappelle pas, hein, comment...
Par Boris ?
Oui, sûrement, voilà, par un des initiateurs du journal. Voilà.
Des rédacteurs, hein, qui fait partie de l'équipe de rédaction. Voilà. Dès le premier numéro
Oui, je me suis abonnée tout de suite.
Vous êtes abonnée, donc, tous les deux.
Antonia est abonnée. Voilà. On partage, la lecture.
Voilà, mais tu en as acheté un de plus cette fois-ci.
Oui, donc...
Le numéro 14.
Voilà.
Pour, en soutien, pour
moi. En soutien, et puis pour... pour dire qu'on pouvait parler autrement des gilets jaunes, peut-être, donc pour le faire savoir à des amis.
Parce que ouais, le numéro 14 est consacré aux gilets jaunes. C'est ce que vous appréciez dans ce journal, le fait qu'il apporte une voix un peu différente de celle des médias dominants.
Voilà, voilà, c'est ça.
En fait, il fait des articles de fond sur des sujets différents. À chaque fois, je crois qu'il y a une thématique. Alors effectivement, c'est pas toujours dans l'actualité, puisque il sort, je ne sais pas, tous les 3, 4 mois.
C'est irrégulier, voilà.
Un irrégulomadaire,
comme on dit. Voilà. En fait, c'est un peu saisonnier, un par saison, en gros.
Voilà.
Mais bon, ça permet d'approfondir des sujets, et puis d'avoir de l'info locale, des choses qu'on ne dit pas dans les autres journaux.
Et qui émanent effectivement des citoyens lambda, comme nous, quoi. Qui nous ressemble plutôt que, par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis énervée contre France Inter là, qui faisait la réclame pour la 5G. On aurait dit que c'est la société qui vend la 5G, quoi.
publicitaire. C'était voilà. Un article de promotion.
Et ce n'est pas une analyse de ce que ça apporte, les inconvénients, les avantages, etc., qui donne la parole, voilà, comme si tous en attendaient la 5G avec impatience. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ça.
Et vous vous souvenez d'un article qui vous a particulièrement marqué ou intéressé pour la manière dont il abordait un sujet, ou pour le sujet qu'il abordait d'ailleurs?
Et moi, les sujets femmes, là, j'avais bien aimé, mais maintenant, tu me demandes qu'est-ce que c'était, je ne sais plus, je perds la mémoire.
Il y en avait un sur le planning familial.
Voilà, voilà.
Il y a eu un article aussi local sur l'implantation des caméras dans la ville.
Ah bon, oui.
Voilà, qui avait le mérite de faire un peu le tour de la question et de ne pas aller dans le sens de nos élus.
Voilà, il y a eu aussi sur la Renaudier. Voilà, les articles sur la Renaudier, c'était intéressant.
Il faut entendre un peu la voix de l'opposition.
Voilà.
Vous, c'est un journal que vous essayez de diffuser un peu autour de vous?
Pas vraiment, en fait, mais bon, il est chez moi, qui est une maison ouverte, il est à disposition, et voilà.
Et vous débattez un peu avec des gens que vous connaissez sur les articles que propose Sexifrage?
Pas beaucoup, en fait.
Si, quand même. Ouais. Si, ça nous arrive de dire, t'as vu dans Sexifrage?
Ah, oui.
Quand même, oui.
C'est vrai. Ah ben, par exemple, oui... Ce week-end, j'étais en atelier d'écriture et c'est une copine qui en a parlé, qui a dit « Vous avez vu sur le circuit et puis sur le grand débat que le maire du séquestre, je n'ai pas encore lu l'article, a rapporté comment ça s'était passé. » Quoi.
À Souillac, ouais.
Comment on appelle ça débat et que ça n'a rien à voir avec un débat. Ça.
Donc là, sur les gilets jaunes. Ouais. Et alors toi, Jean-François, tu as proposé une contribution dans le numéro 13, celui qui justement...
Dans le numéro 14.
Le 14, le dernier, celui
dans le
sur
dernier.
Les gilets jaunes.
Oui. Enfin, c'est une toute petite contribution. C'était un article, on peut dire, humoristique.
D'humeur.
D'humeur, oui. Un petit billet d'humeur sur les gilets jaunes, mais voilà.
Et tu l'aurais pas envoyé à la Dépêche?
Non. Ça, je ne crois pas. Je l'avais partagé en le lisant à des amis à différentes occasions. Puis je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas l'envoyer à Sexifrage? Et Sexifrage a bien voulu le mettre dans ses colonnes.
Ils t'ont demandé de le réécrire partiellement?
Non,
ou il a de suite reçu l'approbation du comité de rédaction? Titre accepté peut-être? Parce qu'ils sont très soucieux de refaire les titres, enfin de donner
ils ont donné un titre, effectivement, mais moi j'en étais très content de la présentation. Et,
peut-être un changement
Et du titre, qu'est-ce qu'ils ont mis? Le jaune est à la mode?
Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est un changement de présentation qui fait que ça peut être un petit peu un petit changement de sens.
On peut le dire quand même. On peut le dire au micro.
Ah ben,
c'est pour Radio Albigès?
Oui.
Bon, alors on peut tout dire à Radio Albigès.
Il n'y a pas de sens.
Non, donc dans cet article, je détaillais les différentes façons d'arborer un gilet jaune dans son véhicule. Et entre autres façons, je disais opportuniste, j'ose. Mélenchoniste, chiffonné sur la plage avant du véhicule. Mais ils ont préféré couper en deux opportuniste et après mélenchoniste. C'est-à-dire ne pas lier les deux. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou si ça a procédé comme ça, de façon inconsciente. Voilà.
Mais ça modifie un peu le sens de ton propos.
Voilà. Mais je ne leur en veux pas.
Tu ne l'auras pas dit au fait.
Je pense qu'ils écoutent Radio Albigès. Ils ne le savaient pas, ils le sauront.
Si tu l'as, peut-être tu peux nous le lire, comme ça on aura. Il n'est pas très long en plus, donc il se prête à la lecture publique.
Et en fait, c'était davantage fait pour la lecture pour.
C'est davantage audio que
pour un journal.
Et ben, on va en faire profiter Radio Albigès.
Donc je reprends l'article tel qu'il est paru. La mode est au jaune. Yellow is beautiful. Des différentes manières d'arborer un gilet jaune dans un véhicule. Sans un pli, sur le dossier du siège, comme un uniforme national. Effet assuré en duo conducteur-passager. En dilettante, en vacancier, jeté tel une serviette de bain sur la plage arrière. Endossé, c'est le militant exalté. Je reviens du rond-point, je retourne au giratoire. Opportuniste, j'ose, trois petits points. Mélenchoniste, chiffonné sur le tableau de bord. Chic, ainsi qu'un foulard autour du cou, enroulé autour du rétroviseur. Hygiéniste, semblable à une housse recouvrant l'appui-tête, anodin, comme si de rien n'était, à l'avant, encore plié dans son cellophane. Sémaphorique, enveloppant le pare-soleil, j'en suis pas. Mais ne soyez pas dupes, le véritable gilet jaune a en son dos un slogan au feutre, Macron démission ou autre. Il porte la trace des pneus et des palettes déplacées, les taches du café renversées les soirs de veille, et sent le feu des braseros au rond-point improvisé.
Merci beaucoup, un peu voilà, à la queneau, super.
C'était avec plaisir.
Grand merci à Jean-François et à Antonia pour ce témoignage et pour cette lecture. Grand merci à toutes les lectrices et tous les lecteurs de Saxifrage, notamment celles et ceux venus les soutenir ce mardi 2 avril 2019. Sous la pluie, vous avez peut-être perçu l'ambiance pluvieuse dans l'enregistrement. Merci également à Pascal Pranière pour sa contribution au numéro 13 sur le circuit. Le journal Saxifrage donne donc rendez-vous à ses lectrices et ses lecteurs, à tous ses soutiens, le mardi 21 mai 2019 à 14h pour la nouvelle audience. Cette fois-ci, l'affaire devrait être jugée. Et puis, pour retrouver les articles des anciens numéros, l'actualité notamment juridique de Saxifrage et aussi pour connaître les points de vente, rendez-vous sur leur site www.saxifrage.fr.
Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche quoi?
Comme un lundi sur Radio Albitzès. Alors on est avec Gauthier Oustric. Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Gauthier, tu viens nous voir pour faire parler un peu d'une association que tu as créée. En tout cas, tu vas nous expliquer comment tu l'as créée et avec qui et pourquoi. Une association qui date de... dans la création date de août 2018, donc c'est pas très vieux. Et c'est une association qui va parler du patrimoine dénatois, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'association, ses buts et pourquoi toi tu es passionné de patrimoine? Et qu'est-ce que c'est pour toi le patrimoine? On va commencer dans l'ordre d'abord. Qu'est-ce que c'est pour toi le patrimoine?
Alors, pour moi, le patrimoine, c'est tout ce qu'il y a d'ancien. Ce n'est pas forcément une époque précise. C'est tout ce qui n'est pas de notre génération.
Là, on parle de patrimoine matériel, c'est ça?
Oui.
Parce qu'il peut y avoir des patrimoines comme les chansons de l'époque, etc. Là, tu t'intéresses plus particulièrement à des choses donc, dans la ville, dans le village de Denat, c'est ça?
Oui.
Est-ce que tu peux présenter un peu le Denat?
Alors, Denat, c'est un assez petit village de 800 habitants. Ça fait 15 km². On est à 10 minutes d'Albi. Denat, il possède un clocher assez atypique en France. C'est un clocher fortifié.
Un clocher fortifié, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que c'est un clocher qui a des créneaux, des murs un peu renforcés par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'un clocher classique, c'est ça?
Voilà, c'est à la base un but religieux, mais aussi défensif. On le retrouve par rapport à la hauteur et l'épaisseur des murs, les créneaux, toutes ces choses.
Ça, c'est que le clocher sur Denat ou est-ce que le reste de l'église aussi est pensé comme un bâtiment semi-militaire
Alors oui et non, parce qu'on sait que les églises étaient des monuments assez solides. Mais je dirais oui quand même, car les murs étaient quand même très épais. Mmh. Il y a une tour d'accès collée à l'église. On sait qu'une chapelle de l'église a été agrandie il n'y a pas longtemps, car à la base, c'était une partie fortifiée aussi. Donc, il y avait vraiment cette partie fortifiée collée à l'église.
Mmh. Comment ça s'est passé, cette création d'association pour ça?
Alors, cet été, on est monté dans le clocher. Très compliqué d'y monter parce qu'il est en très mauvais état. Et en montant dans la tour des gardes, on a vu l'état du clocher. Et on s'est dit, faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser le clocher de notre village dans cet état. C'est pas possible. Donc, le seul moyen de l'entretenir, c'était de créer une association.
Et donc ça, c'est une association qui s'est faite avec qui, en fait?
On est avec la salle des Nantes, tous ceux qui gèrent le comité, le sport un peu sur des Nantes.
Ouais, la vie voilà. Associative, culturelle, etc.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que la mairie vous suit aussi là-dessus
La mairie nous soutient. Ouais. Donc, ils sont tout à fait d'accord avec le projet d'entretenir le clocher. Ils nous soutiennent et ils nous aident.
Et on rappelle, cette église, elle a une vie donc de culte.
Oui.
Mais là, on parle plutôt de patrimoine, donc c'est-à-dire que vous voulez garder ce clocher en bon état pour éventuellement organiser des visites touristiques, c'est ça, par exemple, ou même pour les Dénatois ou pour les Albigeois.
Oui, tout à fait. Parce que l'église accueille encore des messes, donc il faut respecter cela. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est en communication avec la paroisse de Ralmont, donc on se met d'accord pour pas empiéter l'un sur l'autre. Donc on respecte ce lieu. Mais le clocher fortifié, ce n'est pas un lieu religieux. Donc là, c'est avec la mairie de Dénat qu'on voit ce qu'on peut faire.
Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs constats que vous faites. Donc il y a des dégradations qui sont liées à des fientes de pigeons, c'est ça, par exemple?
Oui.
Donc il y aura un premier travail à faire avec des bénévoles. Comment ça se passe, les chantiers que vous allez organiser? Comment ça se passe? Combien vous avez de personnes? Et est-ce que les gens peuvent venir vous aider sur des chantiers bénévoles?
Donc le plus gros chantier, oui, c'est le clocher. Donc là, je pense qu'on pourra rassembler pas mal de personnes. Déjà des Dénatois qui voudront venir aider. Et il y aura des chantiers autour de Dénat. Ça veut dire le lavoir, des puits cachés, un ancien moulin, des choses comme ça. Donc là, on ne connaît pas encore les dates précises, mais on tient les gens au courant pour savoir s'ils veulent venir, s'ils seraient d'accord déjà pour venir, si ça les intéresse. Après, tout est bon à prendre.
Et alors, on peut déjà aider financièrement en adhérant à l'association, c'est ça?
Oui.
Où est-ce qu'on peut trouver l'association? Est-ce qu'il y a une permanence? Est-ce qu'il faut venir à la mairie? Est-ce qu'il faut te contacter à toi? Tu m'as dit qu'il y avait une page Facebook déjà où on peut avoir quelques informations. J'imagine quelques photos peut-être des chantiers en cours ou à venir.
Oui. On essaie de tenir les gens au courant de ce qui va se passer.
Donc c'est l'association du patrimoine dénatois, hein, on le dit, c'est une association dont le titre dit ce qu'elle est, c'est simple. Association du patrimoine dénatois, et on tape ça sur Facebook, et il y a une page donc, qui explique.
Il y a la page, oui.
Qui explique tout ça. Le mail, c'est patrimoine dénatois, tout attaché, sans accent, hein, je précise, @outlook.fr. Outlook, c'est outlook.fr. Et là, on peut donc proposer son aide, on peut demander une adhésion, on peut demander éventuellement un calendrier des futurs chantiers. Ça va se passer dans l'été prochain plutôt
Alors, le chantier du clocher, plutôt vers 2020, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On voudrait faire un gros chantier sur 2-3 jours, ou un enchaîne, plutôt que faire plusieurs parties et que le chantier s'arrête en cours de route, qu'on ne maîtrise plus rien. Donc, on préfère attendre, préparer quelque chose de très bien, et d'enchaîner le chantier pour l'exposer au grand jour.
Et donc, vous allez travailler sur de la réhabilitation, peut-être aussi, on a parlé de puits cachés, c'est-à-dire que vous allez essayer de les valoriser. Vous allez aussi travailler avec des artisans locaux, c'est ça?
On va essayer, oui.
Ouais. Donc ça, c'est pareil, en fonction de... Là, vous êtes tous bénévoles, mais les artisans seront, eux, rémunérés pour le travail, j'imagine? Ou ça peut être aussi un artisan qui peut proposer son savoir-faire bénévolement?
On est plutôt dans du bénévolat parce que on n'a pas les moyens de payer un artisan.
Est-ce que vous lancez un appel à dons, par exemple, est-ce que l'association peut recevoir des dons d'entreprises pour du mécénat, où ils pourraient vous aider avec des grosses sommes pour acheter du matériel, acheter peut-être des échafaudages, je ne sais pas si vous aurez besoin d'échafaudages ou des choses comme ça?
Oui, bien sûr, on peut... S'il y en a qui sont d'accord pour nous aider, pour nous prêter main forte, de toute manière que ce soit, nous on prend tout. Ouais.
Gauthier Oustric, juste on va parler un peu de ton rapport toi avec le patrimoine. Toi tu n'es pas tarné d'origine, tu es aveyronnais je crois, tu m'as dit.
Oui.
Alors comment tu as, parce que tu es tout jeune en plus, on ne l'a pas dit, mais tu viens d'avoir 18 ans je crois, c'est
oui.
Ça ta jeunesse, toi tu l'as passée en Aveyron, alors quel rapport tu as eu avec le patrimoine aveyronnais?
Alors l'Aveyron c'est... Un département riche en patrimoine, c'est incroyable tout ce qu'il y a à voir. On m'a toujours, mon grand-père m'a toujours amené voir des châteaux, des places fortes. Donc j'ai eu ce rapport avec le Moyen-Âge très très tôt. Puis notre région vit avec le Moyen-Âge. Il y a d'autres régions comme la Normandie, ça a son guerre mondiale plus tôt. Et là, nos régions, c'est vraiment très Moyen-Âge. Donc j'ai toujours eu un bon rapport avec le Moyen-Âge, ça m'a toujours plu. J'avais jamais pensé à faire créer une association pour faire ça. Mais il y a plein de choses qui ont fait qu'on a pu créer ça à Dénat. On s'inspire, après on n'a pas la prétention de dire on va faire comme des grands châteaux en Aveyron, comme Calmont-Dolt, Sévérac le château, mais on essaye de s'inspirer d'eux pour transmettre les mêmes choses, quoi. Faire comprendre les gens, essayer de créer des activités comme on fait avec l'école de Dénat, le centre aéré. On essaye de faire toutes ces choses.
Là, vous avez des rapports justement avec l'école pour, oui. Pour, avec des sorties scolaires qui puissent venir voir, visiter le clocher par exemple ou d'autres sites, c'est ça ?
Alors, on a déjà fait quelque chose avec l'école. Mm-hmm. On espère refaire d'autres choses. C'est une classe de Fond-Labour qui est venue dans le cadre d'une semaine artistique étudier l'histoire du village de Denat et proposer une chasse au trésor aux enfants. Et bientôt, en avril, avec le centre aéré de Denat, on va faire une activité plus... on ne va pas faire la même chose qu'avec l'école. On va plus parler des batailles qu'il y a eu,
plus de l'histoire. Voilà.
Les enfants qu'on a eus, c'était des CM1, CM2. Mm-hmm. Parce qu'après, ça fait un peu jeune pour s'intéresser au patrimoine. Donc, ils étaient très contents de découvrir leur village. Parce que finalement, ils ne le connaissaient pas vraiment.
Ouais, ils vont à l'école, à la maison. Voilà.
Sur la chasse au trésor, il y avait des questions. On leur a posé quelques questions, trouver ci, trouver ça. Ils trouvaient de suite. Et puis, il y a plein de choses qu'ils ont découvertes sur l'histoire de cette pierre, l'histoire de cela. Toutes ces choses, ils ont découvert plein de choses. Donc, le directeur était très content. Et on va voir si on peut refaire une suite.
Refaire, ouais. Peut-être de futurs adhérents de l'association, donc l'association du patrimoine dénatois, dont on reçoit aujourd'hui donc, sur Albigès Gauthier Oustric, le responsable. On rappelle qu'on peut voir la page Facebook de l'association du patrimoine dénatois. On tape association du patrimoine dénatois sur Facebook et on tombe dessus. Et on peut écrire à l'association sur patrimoine dénatois, tout attaché sans accent, @outlook.fr pour avoir plus d'informations, pour éventuellement proposer de l'aide ou avoir un calendrier des chantiers qui vont se préparer pour 2019 et 2020, plus précisément pour en tout cas ce qui concerne le clocher de Denat. On te remercie bien chaleureusement, Gauthier, d'être venu nous parler de cette association. On lui souhaite bon vent. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Peut-être un mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter.
Oui, si vous souhaitez visiter Denat et si vous aimez marcher, donc vous êtes les bienvenus. On propose sous réservation de votre part soit une visite du village, soit une visite du patrimoine caché de Denat, plus de l'église. Mmh. C'est vous qui voyez, c'est vous qui venez nous voir pour nous dire ce que vous voulez. Et si vous souhaitez venir à des soirées présentation de l'association ou autre activité, vous êtes les bienvenus. Et je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook pour que vous soyez tenus au courant.
Et le mail donc patrimoine-denatois@outlook.fr. Merci Gauthier.
Merci à vous.
Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai. Je peux pas travailler.
Sur Radio Albigès, on fait tout pour vous faire aimer le lundi. C'est comme un lundi.
Participez à l'aventure Mission Réussir 2019. Ne jetez pas vos idées à la poubelle, faites-les vivre. C'est l'invitation que nous fait parvenir Christian Alboui. Ce sera les 26, 27 et 28 avril au domaine de la Mouline à Albi. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et on est aussi avec Alice Cara au téléphone. Bonjour Alice.
Bonjour Wilfried.
Alors, Mission Réussir, on en a un peu parlé en 2018. Christian était venu nous voir déjà pour une première édition qu'il avait proposée. Est-ce que Christian ou Alice, on peut définir en de quelques mots, peut-être Christian d'abord, qu'est-ce que c'est Mission Réussir et un petit bilan vite fait de l'édition 2018 en septembre dernier?
Mission Réussir, c'est très très simple, c'est se rencontrer avec plusieurs conférenciers, avec des ateliers pour nous dynamiser, donner de l'énergie. On a besoin de rebondir, de prendre l'assurance et de créer, d'imaginer ensemble, de ne pas rester isolé dans son quotidien.
Et c'est pas forcément, c'est ouvert à tous, c'est pas, y a pas de thématique précise, c'est pas pour monter une entreprise ou une association, c'est un peu tout. Il peut y avoir des associatifs, il peut y avoir des particuliers, il peut y avoir des gens qui travaillent en entreprise et qui veulent gagner un peu en confiance, je sais pas, c'est ouvert à tous et tout.
Alice, je te laisse un petit peu la parole.
Donc j'interviens en tant que conférencière sur l'événement. Je suis déjà intervenue l'année dernière, mm-hmm. avec grand plaisir. C'était un moment vraiment très sympa de partage et d'engouement, quoi. Il y avait beaucoup de conférenciers professionnels aussi, ce qui est aussi le cas cette année. Donc on a vraiment préparé un programme très très sympa, axé à la base pour les entrepreneurs. Et puis là, on ouvre un petit peu plus parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait toucher beaucoup plus de personnes finalement. Mmh. Étant donné qu'on aborde des thèmes vraiment universaux et qui peuvent toucher le tout un chacun, quoi. C'est vrai que c'est un moment particulier où il y a beaucoup d'échanges, de partages, etc. Et c'est un vrai bel événement sur la région, quoi.
Christian, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, c'est l'occasion de pour les personnes qui vont venir de faire un plein d'énergie, prendre de la force. Et souvent, certains, on a un peu peur, on retarde à demain de faire des actions, de s'engager. Et c'est aussi, surtout, la force du, je crois beaucoup à la force du cerveau collectif. Travailler ensemble, partager nos rêves et nos idées.
Alors, donc, on a Mission Réussir 2018, ça s'est passé sur 2 ou 3 jours, je crois qu'il y avait déjà un gros 3 jours. Là, donc, on l'a dit, Mission Réussir 2019, c'est du 26 au 28 avril au domaine de la Mouline. 3 jours de conférences denses, il y a 4 intervenants pour la première journée du 26 avril, 7-8, je crois, à vue d'œil pour le 27. Il y a des choses le dimanche aussi, c'est un peu toute la journée, c'est très dense. Est-ce que, comment on s'inscrit à tout ça? Est-ce qu'on peut aller piocher des conférences par-ci par-là? Est-ce qu'on s'inscrit à tous les ateliers à l'avance? Qu'est-ce qui vaut mieux? Et par rapport au recul que vous avez de la première édition, quel a été le retour un peu des gens?
Alors, les personnes peuvent s'inscrire pour 1, 2 ou 3 jours. Le mieux, bien sûr, c'est de venir pour 3 jours parce que c'est une immersion dans l'action, dans l'énergie pendant, avec ses conférenciers, avec les ateliers, ça va monter en puissance. Et le dernier jour, on va continuer à travailler sur des partenariats, sur créer plus de réseaux. Ça, c'est l'important d'être 3 jours. Mais chacun fait comme il peut. Ils peuvent venir une journée. Des personnes se sont inscrites de Belgique, de Paris, de Montpellier, Toulouse, c'est de belles rencontres qui vont arriver.
Alice, quelque chose peut-être à rajouter sur ce...
Mais comme l'a dit Christian, c'est très très bien de s'inscrire sur 3 jours, étant donné qu'effectivement, il y a un panel extraordinaire d'expertise qui sont proposées. Après, bien évidemment, les gens peuvent sélectionner une journée qui leur correspond plus en apparence. Mais c'est vrai que les 3 jours sont d'une richesse incroyable, quoi.
Donc parmi les intitulés, par exemple, « Éveillez votre potentiel corporel »,« Arrêtez de subir votre vie, vivez-la »,« Comment réussir sa vie », »,« Comment programmer votre mental pour réussir », »,« Gagner en efficacité grâce aux outils de pensée visuelle », »,« Utilisez votre intuition pour accomplir vos projets », »,« La joie est une force », »,« Savoir bien s'entourer », »,« Quel état d'esprit adopter pour réussir et vivre ses rêves ». Et on va s'arrêter précisément sur le marketing éthique dont vous allez proposer une conférence, Alice Cara.
Oui, oui, oui. Alors moi, je suis intervenante généralement sur les notions des émotions, donc la vulnérabilité, l'empathie, la honte, la culpabilité. Alors c'est des émotions par lesquelles tout le monde passe, au final, et plus particulièrement quand on est créateur d'entreprise. Donc moi, je vais utiliser ça, je vais proposer une conférence qui, en utilisant ces émotions-là, qui sont pas forcément très confortables, comment les utiliser pour en créer quelque chose de puissant et de... En gros, c'est utiliser ses talents plutôt que d'essayer de corriger ses faiblesses, tout en essayant d'en faire quelque chose de vraiment canon pour communiquer avec ses clients, pour communiquer avec les autres êtres humains, tout simplement aussi, et par là même créer une marque autour d'un produit ou autour d'une personne, ce qui est souvent le cas aujourd'hui avec l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Mmh. Donc, utiliser tout ce qui pourrait être inconfortable et qui semble être à notre encontre pour que ce soit au final quelque chose de hyper positif et que l'on puisse tourner en bien pour notre entreprise. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui avec les clients. On voit beaucoup de gens qui restent dans leur jus de chaussette, on va dire, et l'idée, c'est de propulser ça, de faire en sorte que ce soit bénéfique pour tout le monde, et l'entrepreneur, et créer des produits exceptionnels vis-à-vis de ça, et les proposer avec les clients de manière éthique et fun, quoi, parce que je mets beaucoup, beaucoup d'humour dans mes interventions, et les gens ont besoin de ça, quoi, les gens ont besoin de rigoler aujourd'hui, et le fait de partager avec les autres intervenants, il va y avoir une espèce d'osmose et ça va être génial, quoi.
Christian Albouy.
Oui, je voulais dire aussi que l'événement, imaginez 100 personnes qui viennent. Nous avons 100 places à la Mouline pour recevoir 100 personnes. On peut en recevoir plus, mais l'idéal, c'est que ces 100 personnes vont rencontrer, ou plus, vont rencontrer 18 conférenciers et les ateliers. Donc vraiment, c'est une relation que les personnes qui vont s'inscrire, une relation privilégiée pour échanger avec eux. Vous aurez du temps au moment des pauses et aussi au moment du jeu, partageant nos idées pour réussir.
Alice.
Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a aucun autre événement de ce style dans la région sur Albi. Et c'est vraiment une opportunité. Alors il y en a d'autres hein, à Toulouse, etc. Sauf que c'est souvent en très grand nombre. Et du coup, les intervenants n'ont pas forcément le temps ni la possibilité de se rendre disponible autant pour les gens. Et ce qui est bien avec Mission Réussir, c'est que vraiment, on prend le temps. On est là sur les 3 jours, on peut échanger, partager nos expériences. Nous aussi, en tant que conférenciers, se nourrir des expériences et des projets des gens, leur filer des idées, en prendre aussi. Donc c'est vraiment, tout est autour de l'échange.
On rappelle que donc c'est Mission Réussir 2019, c'est du 26 au 28 avril au domaine de la Mouline, donc dans un cadre effectivement aussi qui peut prêter au travail collectif dans la sérénité et dans la convivialité en tout cas. On renvoie les auditeurs et auditrices pour avoir toutes les horaires, pour avoir les conférenciers et les intitulés sur le site www.missionreussirtoutattaché.com. où on peut avoir des infos et éventuellement s'inscrire, si on est déjà convaincu, au 06 07 90 35 24. Je répète, 06 07 90 35 24. Christian, peut-être un mot de la fin. On le saura aussi, Alice, dire son mot de la fin.
Bienvenue, ne ratez pas un événement vraiment unique dans l'Albigeois.
Alice, votre mot de la fin.
Christian a mis une telle énergie dans ce projet que c'est vraiment un beau projet. Donc du coup, on vous attend nombreux, bien évidemment, et en forme, parce que c'est le but aussi. Voilà.
Merci à tous les deux, et on vous souhaite une bonne édition de Mission Réussir 2019. Donc on le rappelle, du 26 au 28 avril, domaine de la Mouline à Albi. Merci encore.
Merci.
Merci à vous.
Wow, c'est comme un lundi sur Radio Albi de CS.
C'est lundi, ouais, les midi. Mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais.
Comme chaque semaine, ou à peu près, parce que des fois on s'est un peu loupé, on retrouve le portrait d'Occitanie en partenariat avec Lara et la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Cette semaine, c'est Radio Lacône qui nous propose de rencontrer Jean-Benoît Angéli. On va parler pêche à la mouche.
Citoyen d'Occitanie.
Un portrait proposé par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
Citoyen d'Occitanie.
Rencontre avec Jean-Benoît Angéli, champion de France de pêche à la mouche, membre de l'équipe de France championne d'Europe et vice-championne du monde de pêche à la mouche, une passion qui est née il y a longtemps.
Dès l'âge de 8 ans, en fait, j'ai commencé à pratiquer comme tout petit garçon envie d'aller pêcher quelques poissons au bord de l'eau, donc j'ai commencé comme ça. Comme personne ne pêchait dans ma famille, on m'a vite inscrit dans des séjours spécifiques, des colonies de vacances sur le thème de la pêche. Et donc j'ai progressé chaque année pendant toutes les vacances. C'est effectivement... depuis que je pratique, que j'en ai fait mon métier et que j'enseigne aux plus jeunes maintenant ces techniques de pêche. Au niveau compétition, il faut marcher dans l'eau, des fois courir au bord de la rivière pour aller pêcher un poisson qu'on a repéré à quelques mètres. Ça reste assez sportif. Et ce qui m'a donné envie, en fait, je sais pas, je pense que c'est en soi. Chacun a peut-être une passion en lui. Et moi, c'est vrai que depuis le plus jeune âge, je vis pêche.
Jean-Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour les non-connaisseurs, la différence entre la pêche à la mouche et la pêche de base avec finalement une canne à pêche, un fil et un hameçon?
Il y a la pêche de base accessible à tout le monde, une pêche au cou avec une petite canne que tout le monde peut pratiquer. La pêche à la mouche, c'est un petit peu plus technique, effectivement. Le principe consiste à, en gros, imiter la nourriture des poissons, de leurrer un poisson avec une mouche, en l'occurrence, qu'on a fabriquée ou qu'on a achetée pour tromper le poisson.
Justement, Jean-Benoît Angéli fabrique lui-même ses mouches, direction son atelier.
Dans la tête de beaucoup de gens, la pêche à la mouche, ça va être imiter un insecte, mais ça peut être aussi inciter un poisson à mordre. Et justement, là, les mouches que vous voyez, qui sont faites avec de la guirlande de fluo, ça s'appelle de la chenille. Ça va être pour énerver la truite. En fait, elle va s'attaquer à ces mouches très brillantes pour défendre un territoire ou parce que la couleur l'énerve et donc elle va se jeter là-dessus. Les mouches que vous voyez, voilà, ça va être pour des truites arc-en-ciel, en fait, qu'on a mis dans un lac. Les truites sauvages ne s'y laisseraient pas prendre à ce genre de mouches. Là, après, il faudrait, pour attraper des truites sauvages ou des truites arc-en-ciel un peu plus éduquées, des mouches un peu plus neutres en couleur, dans les noirs, dans les marrons, quelque chose de beaucoup plus imitatif, en fait, quelque chose qui va ressembler à un insecte tombé dans l'eau, une fourmi, un scarabée, une sauterelle, par exemple, qu'elle pourrait avoir l'habitude de voir. Je vais vous montrer comment on fabrique une mouche, mais on va commencer avec un hameçon. On va accrocher du fil et après divers matériaux qui vont arriver à tel ou tel résultat en fonction de la mouche que l'on veut imiter. Qu'est-ce que je vais monter comme mouche? Donc là, j'étais en train de fabriquer justement des petits streamers là, pour la compétition que je vais faire ce week-end à Albi. Alors là, c'est plus que des insectes, c'est censé imiter des petits poissons en fait. Voilà, donc je vais lancer ça le plus loin possible. Et c'est censé imiter un petit alevin qui s'enfuit. Juste un petit temps de préparation. Là, je coupe effectivement un bout de polystyrène pour lui fabriquer deux gros yeux. Je vais prendre un hameçon, fixé sur l'étau. On va fixer la première chose pour tout type de mouche, ça va être de fixer le fil sur l'hameçon. On pourrait faire avec du fil de couture, qui est souvent un petit peu plus grossier, mais là c'est du fil très très fin. Voilà, je vais fixer les yeux et mettre derrière des plumes de couleur. Là, donc je vais choisir des couleurs assez neutres, hein, du noir et un petit peu de jaune, je vais mélanger les couleurs.
Jean-Benoît Angély a fait de sa passion un métier. Il est aussi moniteur guide de pêche et a décidé d'encadrer des jeunes.
J'ai envie de transmettre avant tout à ce public toutes mes connaissances. Et souvent, justement, c'est des jeunes qui n'ont pas spécialement l'entourage, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un papy ou un papa pêcheur. Et c'est souvent le début d'une belle passion, parce que la plupart des jeunes qui commencent dès 8-9 ans dans mes séjours, en fait, reviennent chaque année. Et j'en ai même certains qui m'accompagnent en tant qu'encadrant, en tant que moniteur BAFA, lors de mes séjours. Au-delà de la pêche, j'essaye de transmettre la connaissance de la rivière et surtout le respect de la nature et de la rivière. Ça passe déjà et avant tout par le respect du poisson. Pour être concret, c'est qu'on relâche la totalité de nos prises. Et j'essaye de leur expliquer que les poissons sauvages qui sont nés dans la rivière, leur place, c'est dans la rivière. Il y en a de moins en moins et il faut les respecter et essayer de les remettre à l'eau dans les meilleures conditions.
Pour finir cette rencontre avec le champion de pêche à la mouche Jean-Benoît Angély, petite sélection des plus beaux coins de pêche pour lui en région Occitanie.
Moi, je suis déjà au bord de la Goue, donc c'est quand même une rivière qui a un très 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 bon potentiel, en fait, qui est une très belle rivière. On a des gorges au-dessus de Brassa qui sont magnifiques, en fait, très sauvages. C'est un de mes lieux de prédilection, on va dire. Je pense aussi au Toré, du côté de Mazamé. Aussi la vallée du Gijou, il y a une petite rivière qui est assez sympathique, qui est très bien pour les pêcheurs à la mouche.
Ce portrait de citoyen d'Occitanie a été réalisé par Radio La Côte dans le cadre d'un partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Comme un lundi, c'est fini, vous adorez ou vous détestez, dites-le nous en nous écrivant sur radioalbiges@gmail.com ou appelez-nous au 05 63 60 60 36 ou encore laissez-nous un message, voire plusieurs, sur la boîte vocale au 05 63 77 61 75. Les messages seront diffusés en début d'émission la semaine prochaine, sauf que cette fois non, puisque c'est les vacances la semaine prochaine. On vous proposera des émissions spéciales pour les deux semaines à venir, concoctées par Bérengère. Et on rappelle que donc les messages de la boîte vocale seront diffusés dans les limites de notre charte et des règles du CSA, bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Radio Albices est une association, vous pouvez donc y adhérer et nous soutenir, nous proposer des émissions, venir nous aider sur la compta, réparer un robinet parfois. Il y a plein de trucs à faire à Radio Albices. Retrouvez cette émission comme un lundi en podcast sur notre site internet www.radioalbiges.com. Merci à Paul et Arnaud pour la préparation de ce magazine comme un lundi. N'oubliez pas les thématiques des créneaux infos de la semaine. Demain mardi, c'est Loïc Colombier qui vous attend pour son Mag Sport à midi et 18h. Mercredi, c'est le créneau écologie avec Gardarem la Terre. On y parlera ce mercredi de la poubelle nucléaire de Bure. Jeudi, toujours à midi et 18h, Clémentine vous attend pour l'Ain Nouvelos d'Apraki. Et enfin, vendredi, ce sera autour d'Atoutarn, le magazine en partenariat avec le conseil départemental. Cette semaine, on mettra le focus sur le festival de théâtre de Blaye-les-Mines, Les Trois Petits Coups, qui aura lieu du 26 au 28 avril. Donc ça, c'est dans Atoutarn, ce vendredi à midi et 18h, qui sera aussi rediffusé dimanche prochain à 8h du matin. À noter deux petites infos, le rendez-vous des Gilets jaunes de Castres qui vous invite à une conférence autour du RIC, référendum d'initiative citoyenne, le mercredi 24 avril prochain à la salle Gérard-Philippe de Castres à partir de 19h30. Et en parlant citoyenneté, on rappelle que le conseil municipal d'Albi a lieu ce soir à partir de 18h ou depuis 18h si vous écoutez la rediff de ce commun lundi, et que même si l'on ne peut pas y dire grand-chose, il est éclairant d'y assister en tant que citoyen et citoyenne et proposer ensuite pourquoi pas des changements sur son déroulement avec de la vraie démocratie participative, voire directe, tiens pourquoi pas. Le conseil municipal c'est à la mairie d'Albi au 16 rue de l'Hôtel de Ville, ben oui c'est pas compliqué. Vous pouvez retrouver son ordre du jour sur le site de la mairie, www.mairie-albi.fr, à l'onglet Conseil municipal. Allez, comme lundi, c'est fini. Bonne semaine sur Radio Albitses. Bonne semaine sur Radio Albitses.